Bonjour à tous et bienvenue au Café Sans Filtre. Je suis Samuel Pireton, l'un des membres de l'équipe d'organisation des Cafés Sans Filtre. Aujourd'hui, nous vous invitons à notre 16e podcast déjà, avec une thématique particulière qui est la rédaction web. Alors pourquoi cette thématique? Simplement parce que Café Sans Filtre a mis en place depuis ce début d'année 2021 une nouvelle opportunité de rencontre. Vous le savez, avec cette pandémie qui nous occupe, c'est de plus en plus difficile de se rencontrer et de faire du networking. Les Cafés Sans Filtre, à la base, ça se passait en live avec du public, avec entre 15 et 30 personnes. On avait la possibilité d'échanger. Malheureusement, depuis le début de la pandémie, eh bien, tout ça est tombé à l'eau. Et nous nous retrouvons donc depuis lors avec une version du Café Sans Filtre totalement en ligne. Dans ce même ordre d'idées, nous avons décidé de vous aider à rencontrer d'autres personnes, à networker. C'est pour cela que nous avons mis en place la machine à café. Machine à café, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site web machine-a-café.org. Et ce sont en fait des mises en relation personnalisées par visioconférence. C'est 100% gratuit, c'est totalement en fonction de vos disponibilités et de vos objectifs. La prochaine machine à café a lieu le jeudi 8 avril avec justement comme thématique un focus sur le monde de la rédaction web et du copywriting. Si tout cela vous intéresse, je vous invite donc déjà à vous rendre sur le site web machine-a-café.org. Et en attendant, je vous invite également à plonger dans l'écoute de ce 16e podcast. Aujourd'hui, nous recevons Mélissa Monaco, qui est basée à Bruxelles actuellement, qui a déjà beaucoup bourlingué, qui est connue dans le monde de la rédaction web et notamment du tourisme également via son site web mellofstravels.com. Je vous propose de nous tourner vers Mélissa. Excellente écoute et on se retrouve lors du 17e numéro du podcast de Café Sans Filtre. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on est avec Mélissa Monaco pour parler d'une thématique qui sera également au menu d'un prochain, une prochaine machine à café, c'est la rédaction web. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est peut-être pour moi vous présenter qui est Mélissa Monaco. Mélissa Monaco est une Bruxelloise qui a bourlingué pas mal dans le monde et notamment du côté des États-Unis. Si je reprends un peu ton parcours indiqué sur LinkedIn, que je le retrouve, tu es actuellement consultante freelance chez Sorezo, tu as travaillé pour l'UC Louvain, tu as rédigé un livre autour des bonnes adresses bruxelloises. Tu as aussi occupé une position de rédactrice et de gérante, je vais appeler ça, de site web auprès de l'IAS-IISA. Alors, tu nous en parleras un peu parce que je pense que c'est intéressant pour nous. Tu as travaillé aussi pour eBookers, qui est donc un site de voyage en Suisse romande. Et puis, tu as occupé des positions au niveau de la Commission européenne, de la Communauté française. Mais ça remonte déjà plus loin.
Oui, c'est loin.
Voilà. Alors, selon toi, quel est le premier job qui t'a rapproché du milieu web, Mélissa?
Eh bien, c'était bloguer.
C'était bloguer, simplement pour c'était le plaisir.
Mais ça a commencé, pour le plaisir, puisque ça fait maintenant en tout, je pense maintenant, ça fait 16 ans. 16 ans que je blogue, mais c'est comme ça que je me suis fait remarquer par eBookers à l'époque.
D'accord.
Où on est venu me chercher pour devenir freelance et écrire des articles pour leur blog corporate.
Et tu bloguais niveau voyage, expérience personnelle. Qu'est-ce que tu utilisais comme plateforme à l'époque, en fait?
Alors, pour mon blog, tout début, c'était Overblog. Et puis après, je suis passée sur WordPress. À l'époque, il fallait encore l'installer soi-même complètement. Chez eBookers, c'était encore la bonne vieille tradition. On envoyait un article sur un traitement de texte et il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'insérer dans le blog. On envoyait les photos avec aussi.
Oui.
Donc, c'était la vieille époque.
C'était la vieille époque et le début quelque part des blogs ici en Belgique également. Hein. Puis tu as travaillé comme web content manager, community manager, assistante de conférence et coordinatrice chez IAS ISA. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce job en fait et de est-ce que ça t'a permis d'acquérir une expérience supplémentaire?
Là, on peut dire que ça a vraiment été mon premier, enfin, vrai job plein temps dans le monde du web. Donc, c'est une organisation internationale en fait qui a pour but de mettre en contact des spécialistes de l'administration publique. C'est une vieille institution qui est plus vieille que l'ONU. Donc,
Oui, ça situe un peu, hein.
c'est
L'ONU,
déjà
fin des
ça.
années 40. Hein.
Oui, non, eux, ils sont nés un petit peu après la Société des Nations. Et
Ah
ils
oui.
ont toujours été à Bruxelles, ils sont toujours installés là. Et j'y suis venue, je faisais de l'intérim pour faire complètement autre chose. Et ils avaient un vieux site web qui était codé en HTML statique. Et moi, je m'y connaissais déjà, un petit peu dans le codage, parce que j'avais fait ça à l'IEX, on était les. Je pense au moment où je suis sortie, on était la première, les premiers diplômés à avoir touché au web.
Ah oui, d'accord.
Donc ça remonte déjà il y a longtemps. Et j'ai continué en autodidacte. Donc quand il y avait un problème, je savais m'occuper du site web. Ils ne devaient pas faire appel. Ils avaient aussi une freelance pour s'en occuper. Mais... Et pour finir, après mon intérim, ils sont venus me rechercher en me disant, écoute, on se rend compte qu'on a vraiment besoin, le web, ça devient tellement important, on a besoin d'un webmaster, on va refaire tout le site. Et comme ça s'est bien passé, on veut que ce soit toi qui sois en charge de ça. Et donc j'ai commencé par ça, à refaire le site. D'abord, ça a été s'occuper d'abord de l'HTML, puis après c'est passé sur des CMS, deux CMS différents. Et
CMS, on
puis
rappelle pour
après,
ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des Content
oui.
Management System, donc des outils qui vous permettent de
Oui.
créer beaucoup plus facilement des sites web.
Voilà. Comme WordPress, par
Oui.
exemple, le plus connu. Et finalement, est venu s'ajouter, les réseaux sociaux ont commencé à monter en puissance quelques années après que je sois arrivée, donc commencer à se lancer aussi sur les réseaux sociaux.
Et donc tout ça, en fait, hormis quelques approches du HTML à l'issue de ta formation à l'IEX, c'est en autodidacte. En fait, c'est le fait de bloguer de ton côté personnellement pour tes voyages, et puis de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis, comme dirait un ami commun, pour ne pas le citer, Davanac. C'est donc vraiment de manière autodidacte que tu as construit ton expérience.
Tout à fait. Enfin, j'ai suivi quelquefois quelques tutoriels. Je me souviens tout, il y a fort, fort longtemps quand on a commencé à passer du codage HTML dur vers des logiciels comme Dreamweaver. Bah, je suivais le tutoriel qui était donné avec Dreamweaver. Même chose pour Flash. Je m'amusais à faire des trucs pour mon site, en fait. Enfin, pour un tout vieux site.
C'était
À
ton
l'époque où
laboratoire,
j'habitais
quelque
encore les
sorte.
États-Unis, ouais, c'était mon labo. J'apprenais comme ça. J'y passais énormément de temps. C'était aussi par plaisir et pour apprendre. Et finalement, tout ça m'a servi pour commencer à vraiment travailler.
Alors, tu as occupé cette position jusqu'à février 2019 où tu as décidé de faire un grand saut quelque part, où tu t'as un peu, t'as d'abord pris le temps de voyager. Ça pourrait paraître naturel pour une blogueuse de voyage, mais on sait combien c'est beaucoup plus difficile actuellement. Donc, tu as eu la chance de pouvoir faire une sorte de tour du monde.
Oui,
Et puis alors,
oui.
tu t'es lancée comme rédactrice web freelance. Parle-nous un peu de cette dernière étape, en fait.
Alors, j'étais arrivée à un moment où à l'ISA, je voyais pas de perspective d'évolution. Et enfin, je me suis dit, là maintenant, j'avais 45 ans, et je me dis, maintenant, si je dois faire un changement dans ma carrière, c'est une des dernières opportunités que j'ai de faire un grand virage. Je me suis dit, tiens, je pense que je ne suis pas faite pour le freelance, mais si je ne sais pas, je ne
On ne
vais
le
pas y
sera pas,
arriver.
oui.
Voilà. Donc, il se trouvait que l'institut voulait faire des changements, donc on a négocié et ils m'ont laissé partir. Après, j'ai pris le temps, puisque j'étais en préavis, d'essayer un peu de me reposer, de voyager un petit peu et de réfléchir à ce que j'allais faire. Et à la fin de mon préavis, en fait, j'avais toujours pas vraiment de plan qui était clair, mais j'ai deux copines blogueuses qui sont venues me chercher parce qu'elles lançaient leur petite agence de communication numérique sous réseau. Et Sylvie et Mitchka sont venues en me disant, écoute, on a lu ton bilan, puisque chaque année, les blogueurs, fin de l'année, ils font le bilan de leur année.
On est d'accord.
Et donc, si on a vu ton bilan, on te connaît, on s'était déjà rencontré en vrai et on pense que tu serais vraiment quelqu'un qui pourrait nous aider. On veut que tu fasses partie de ce réseau. Et donc, voilà, je les ai rejointes.
Et donc le travail de rédacteur web. Bon, on va préciser parce qu'on l'a un peu survolé. Tu as donc fait l'IEX, tu as une formation de journalisme.
Voilà.
Ça, c'est une base, donc quelque part, tu as un acquis. Mais qu'est-ce que la rédaction web par rapport à un job classique, peut-être de journaliste? À quoi doit-on penser en plus,
À plein de choses,
en
mais principalement à ses lecteurs, donc une cible. Déjà, ça peut être, c'est déjà adopter un ton qui est un peu plus direct pour que ce soit facile à lire, puisque on le sait sur Internet, c'est moins évident de lire beaucoup. Donc, on doit essayer d'aller à l'essentiel. Ça doit être adapté au public aussi, qui lit le blog ou le média ou le site sur lequel on travaille. Par exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, c'était une mission que j'ai terminée pour Bruxelles Formation, où ils font tout le site de la Cité des métiers. Il fallait revoir les textes parce qu'ils étaient un peu trop compliqués pour les demandeurs d'emploi.
Oui, ben je pense que
Donc,
c'est une difficulté en fait qu'on rencontre souvent dans les administrations, c'est qu'on a un jargon très fortement orienté administratif et interne et pas nécessairement pensé pour être compris rapidement par n'importe quel utilisateur. Et ça, peu importe que ce soit un demandeur d'emploi ou quoi que ce soit, même dans la prise de décision, la manière de communiquer. Pour bêtement parler d'un compte-rendu de conseil communal ou la simple construction du site pour qu'elle soit compréhensible pour l'utilisateur, c'est un peu compliqué en général.
Voilà.
C'est vraiment là que le rédacteur web intervient pour vraiment, j'allais dire, vulgariser quelque part.
Vulgariser, mais aussi, on va dire, simplifier le flux de la lecture. Et aussi, il faut penser référencement. Évidemment. Donc, en général, on a toujours un élément de référencement à garder en tête lorsqu'on écrit, puisque le but. Quand on écrit pour un site web, c'est d'être trouvé et d'être en tête des
Des
recherches de
résultats.
notre ami. Voilà.
Et comment est-ce qu'on peut procéder pour ça? Parce que bon, il y a, allez, on va dire, il y a forcément moyen de dénicher l'une ou l'autre formation, même en ligne, puisque Google propose de se former gratuitement à certains de ces outils. Mais comment est-ce qu'on peut mettre les pieds dedans sans avoir peur de se tromper? Qu'est-ce que tu donnerais comme truc pour faire une première approche du référencement efficace, en fait?
Oh là là, ouais, ça c'est Pour moi, pour te dire la vérité, donc le référencement, le SEO, ça reste quand même qu'une espèce de truc qui reste très obscur finalement. Là, pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'étais encore à SEMrush, donc l'outil d'aide au référencement qui organisait toute une après-midi de webinaire là-dessus sur la stratégie web. Et j'écoutais, et là encore, il y a des règles qui sont aussi quelquefois complètement contradictoires. Google qui dit qu'il faut écrire des textes longs, et là, un spécialiste SEO qui dit, mais en fait, non. Fais un texte de 350 mots peut être très bien référencé, ça dépend comment on l'a fait.
Oui, c'est ça, parce que
Donc.
j'ai vu passer cette semaine des stats qui disaient qu'il fallait que le texte fasse 7000 mots ou quelque chose comme ça pour raccrocher en termes de temps de lecture, que c'était le plus partagé, enfin le plus trouvé. Mais à un moment donné, ce n'est évidemment pas possible de rédiger rien que des textes de 7000 mots. Donc,
Voilà. Bah, en tant que blogueuse, comme pas mal de personnes qui ont un blog sur WordPress, ben, j'ai un plugin Yoast qui fait énormément de vidéos sur YouTube, de tutoriels, etc., qui suit l'évolution du référencement d'assez près, forcément. Donc, bah, je suis leurs vidéos. Et puis, il y a aussi plein de petits tutoriels qu'on peut trouver. Pendant un moment, enfin, même je suis, pendant un moment, donc, j'ai aussi suivi des formations de Bruxelles Formation en SEO, en auto-formation. Ils
oui.
en ont pas mal. Ils ont un beau catalogue. Mais enfin, je dirais que le problème des auto-formations, c'est que quelquefois il y a un décalage entre le moment où la formation a été filmée et le moment où on la voit, quoi. Donc il y a peut-être des choses qui sont un peu obsolètes.
Ouais, parce que j'allais venir ça peut-être un peu plus tard dans la discussion, mais puisque tu l'abordes. En fait, la difficulté pour un acteur web, c'est de se tenir informé et d'être up-to-date, je vais dire, puisque bah, Google change les règles du jeu. Enfin, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, peu importe ce pourquoi on publie, les règles du jeu évoluent en permanence. Et donc, c'est quand même assez
Voilà.
compliqué de rester au-dessus de la vague. Est-ce
Mais
que.
ce qui est plus compliqué en fait quand on est rédacteur ou rédactrice web, en général, on aime écrire, mais on ne peut pas écrire comme on le souhaiterait, quoi. Il faut toujours avoir cette pensée SEO derrière.
Mais est-ce que c'est. Là, je m'écarte peut-être un peu de la thématique pour rentrer dans l'aspect passion, passion écriture, partage, etc. Est-ce que parfois, ce n'est. Bon, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais ce n'est pas un peu s'éloigner de certains surfeurs potentiels, mais que d'écrire à sa façon, d'y amener sa touche. Et alors amener les personnes qui nous trouvent malgré tout dans l'environnement, dans l'atmosphère, dans la manière dont le rédacteur se trouve au moment où il écrit quelque part. Enfin, ça dépendra, tu me diras un peu des sites pour lesquels on va pas amener, si on écrit sur le site d'une administration versus un site d'un commerçant, on aurait tendance à lui conseiller bah, de se mettre un peu en avant, d'amener le surfeur dans son atmosphère, dans son travail, lui expliquer. Il y a un positionnement qui est parfois un peu différent. C'est difficile de faire du. Tu me corrigeras parce que c'est toi qui es la rédactrice web, mais c'est peut-être
Oui.
difficile de faire du SEO, du référencement sur de la personnalisation d'un message. Bah, si j'accompagne le boulanger de mon village pour lui créer un environnement en ligne. Où est le juste milieu, en fait? Question piège.
C'est une question qui reste à nouveau pour moi encore extrêmement obscure.
Oui, mais c'est
Et
normal, hein.
ouais, je suis en plein dedans avec un des clients de ce réseau où pour eux je fais plus de la rédaction qu'autre chose. Ils sont sur un thème bien précis qui est le tourisme durable. J'écris donc j'écris pas mal d'articles qui sont pas trop mal référencés, mais par exemple dans les recherches, quand on regarde sur Search Console pour voir les mots-clés que les internautes ont cherchés, ben c'est pas du tout le thème.
Oui,
Tu vois?
ça c'est particulier. Mais donc ça veut dire que quelque part, il y a une cible qui il y a une tu touches quelqu'un qui n'était pas envisagé à la base, peut-être. Enfin, tu n'es pas
Voilà.
sur la cible à laquelle vous aviez pensé au départ, mais par contre, il y a quand même un lectorat. La difficulté alors, c'est d'essayer de faire matcher les deux au bout de la
Exactement.
ligne. Et est-ce que tu vois une différence dans les approches, puisque tu le disais, tu travailles avec tes collègues qui, elles, sont installées en France. Est-ce que tu constates des différences d'approche entre les deux pays par rapport à la rédaction web?
J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, on va dire, je vais pas dire mécanique, mais plus réfléchi et plus au taquet en France. Il me semble.
En
Mais
gros,
je peux
qu'il y
me
a
tromper.
un écart de maturité quelque part où ils seraient déjà un peu plus loin dans la réflexion par rapport à leur manière de rédiger par rapport à la Belgique, à la Wallonie et à Bruxelles.
Je pense, je pense. En tout cas, c'est ce que je remarque parmi, ben, ne fût-ce que dans ma petite communauté de blogueurs voyage. C'est un sujet qui revient tout le temps, le référencement. Et ils sont vraiment taqués, quoi. Parce qu'en plus, on a bien vite réalisé que les réseaux sociaux ne suffisaient pas. Et que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser si on veut augmenter notre trafic, donc on voit bien qu'ils sont plus loin.
Oui, tu avais d'ailleurs, si je ne me trompe, entamé un travail, une réflexion sur l'architecture et la construction de ton propre site, qui est donc Mail Loves Travels.
Voilà, et qui va être, je pense que je vais à nouveau changer. Mais ça fait 2 ans.
Mais oui.
Plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que, allez, il a un nouveau design, etc., des nouvelles fonctionnalités, mais je pense que je vais encore changer. Ça va vite, hein,
Ouais,
aussi.
mais encore une fois, on en revient, c'est ça toute la difficulté, c'est de rester et de ne pas désarçonner non plus ses habitués, parce que parfois ça peut changer fortement. Comment est-ce que vous travaillez avec tes collègues parisiennes dans la répartition des missions, etc.? Est-ce que vous avez l'une et l'autre des préférences et du coup les missions se répartissent ainsi ou bien c'est plutôt en fonction
Alors,
de la géographie des clients?
elles sont pas parisiennes.
D'accord.
Il y en a une, même si Sylvie, elle a habité à Paris pendant longtemps. Maintenant, elle est à Toulouse et Mitchka est à Agde.
Ok, mais
Ce
je
sont des
pensais avoir vu Paris
sudistes.
sur le site. Autant pour moi.
Mais en fait, il y a une répartition qui se fait un peu d'office parce que parmi ce qu'on fait dans ce réseau, on propose aussi des formations. Et les formations en France, pour qu'elles soient remboursées,
Oui.
il faut avoir suivi une formation de formatrice.
OK.
Donc Sylvie et Mitchka ont dû suivre des cours, faire des stages, etc. Donc elles ont leur certificat, elles peuvent donner des formations, moi pas. Donc j'ai plus, on va dire, des tâches plus de community management, de rédaction, mais je peux aussi créer des modules en ligne de formation. Donc là, du coup, on est en train de mettre un gros coup là-dessus, sur les modules de formation, sur plein de sujets, sur la stratégie web pour un site, sur l'apprentissage des réseaux sociaux, mais pour les professionnels, en fait. Pour apprendre aux marques qui débutent, ben, comment se lancer sur Instagram, sur Twitter, etc.
C'est
Comment
bien.
définir son esthétique? Ouais, c'est un chouette. J'aime beaucoup faire ça, en fait.
Mais du coup, encore une fois, on en revient, parce qu'à chaque nouveauté qui apparaît se pose la question, doit-on entrer dedans? Bon, il y a les classiques, comme tu viens de les donner, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, il y a TikTok, Snapchat, puis Clubhouse pour le son qui risque de faire une forte montée en puissance quand Twitter va le rendre disponible pour tout le monde. Et on sait que Facebook prépare quelque chose aussi. Donc, comment est-ce qu'on se positionne quand on est rédacteur web, rédactrice web, par rapport à tous ces différents outils qui ont leur spécificité, pardon. Est-ce qu'on trouve le temps de prendre le train, de rentrer dans l'outil? Est-ce qu'on se dit que ça va être un... Comment est-ce qu'on se positionne, bêtement, simplement?
Alors, je vais du point de vue de la rédactrice web, ben, j'ai pas vraiment le point de vue. Moi, je suis une early adopteuse normalement. D'ailleurs, ce qui me frustre énormément, c'est que Clubhouse n'est toujours pas disponible pour Android et que ça. Je râle, je râle. J'ai un iPhone 6, mais il ne peut plus être mis à jour au bon iOS, donc je ne peux pas utiliser Clubhouse. Mais du point de vue de l'agence, par contre, on connaît notre cible. Et notre cible, ce sont plutôt les petits acteurs du tourisme, ceux qui débutent, en
D'accord.
fait. Et donc, commencer à parler à nos clients, aux potentiels clients de TikTok, de Clubhouse, ça ne va pas aller. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité, donc les réseaux qui sont un peu plus, on va dire, établis comme
Ouais.
Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn et comme Twitter.
Et comment est-ce qu'on... Bon, après, toi, comme tes collègues, vous avez forcément une longue expérience. On en parlait au début du podcast. Mais comment est-ce qu'on peut acquérir la grammaire des différents réseaux? Parce qu'il y a des usages, il y a la manière d'écrire, il y a la manière d'exprimer, et puis il y a la manière de l'illustrer. Donc, comment est-ce qu'on mélange tout ça? Tu me diras, on peut s'inscrire aux formations de soreso.com, vous pourrez faire, mais
Voilà.
c'est une première étape. Mais la deuxième, pour toi comme pour tes collègues, comment est-ce qu'on s'approprie la grammaire?
Il n'y a rien à faire d'autre. La seule chose à faire, c'est la pratique.
La pratique.
La pratique et les tests. Faire des tests. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Et quels outils est-ce que vous proposez comme ça pour vérifier? Bon, tu parlais tout à l'heure de la Search Console. Forcément, quels outils est-ce que vous utilisez au quotidien pour vérifier que la performance, les KPI, comme on dit dans le langage web?
Tout simplement les outils d'analyse des réseaux sociaux qui sont déjà disponibles, donc les Facebook Insights, Twitter Analytics, Pinterest a aussi ses insights. Donc on regarde, on va directement à la source.
Yes. Si un jeune devait débarquer aujourd'hui, venir te trouver, te demander un conseil, tiens, je vois ce que tu fais, j'aime bien, qu'est-ce que tu me conseillerais pour devenir rédacteur web? Est-ce que...
Alors, je dirais déjà que il faut déjà avoir une bonne plume, être très attentif non seulement sur les tendances qui sont dans le monde du web en général, mais aussi sur les tendances on va dire du secteur dans lequel il va travailler ou dans lequel se trouve son client. Surtout avoir la passion d'écrire, parce que sinon, quelquefois, on fait des jobs où on n'a pas spécialement envie d'écrire, en fait, où c'est pas spécialement fun. D'écrire, c'est pas drôle, eh bien, c'est pas vraiment notre secteur, mais on le prend quand même. Donc, il faut vraiment aimer ça. Sinon, après, on risque d'être vite dégoûté.
Et comment est-ce que ça fonctionne en fait pour la commercialisation de son service de rédacteur web? Est-ce que c'est par texte, par est-ce que tout est possible en fait? Tout dépend du client. Comment est-ce qu'on se met d'accord avec un client quand on décroche une mission de rédacteur web en fait?
C'est-à-dire, tu veux dire du point de vue de
Bah,
chercher un
est-ce que
client,
c'est,
bien.
oui, bah, je veux dire comment est-ce que vous. Je ne demande pas de prix tarif, c'est pas la question, mais comment est-ce qu'est facturée une prestation de rédacteur web? Est-ce qu'on peut avoir des missions à long terme? On dit, bah voilà, vous êtes engagé pour la mission de rédactrice web pour notre boîte et bah, vous êtes sur un CDD, CDI, ou bien alors est-ce qu'en freelance, bah, on peut te commander un texte, deux textes, trois textes, ou comment est-ce que ça se passe en général de ce point de vue-là?
Ça dépend. Par exemple, ici, sur le client dont je parlais précédemment, là, on avait été, la première fois, on avait été engagé pour une période de 6 mois, donc pour gérer les réseaux sociaux, et il y avait un volet rédaction où là, c'était un forfait. Mais vraiment deux choses séparées. Donc, après. Là, on est passé sur une autre facturation, mais où tout est compris sur un mois, quoi. Donc, c'est pas. Oups! Tu avais disparu pendant un moment.
Je
Excuse-moi.
suis toujours bien là, Pierre. Je n'ai pas bougé, pas de souci. Est-ce qu'il y a des sites web qui pour toi sont des références, des incontournables pour se tenir informé? Tu parlais tout à l'heure de Semrush, mais est-ce qu'il y a un gourou du référencement, de la rédaction web ou des personnes que tu apprécies lire pour leurs avis qui pourraient être partagés?
Le site rédacteur.com donne pas mal d'infos, c'est toujours assez intéressant. Mais très franchement, je ne suis pas vraiment de gourou du SEO.
D'accord.
Pour te dire, je lis énormément de choses. Évidemment, je lis quasi tous les jours le boulevard du modérateur pour me tenir au courant de tout ce qui se passe. Surtout du point de vue des réseaux sociaux.
Oui.
HubSpot est bien aussi pour tout ce qui est content marketing. Je les suis énormément. Donc ça fait déjà pas mal, hein, pas mal de lectures.
Oui, est-ce que selon toi, quand un client pense à déléguer une mission de rédaction web, est-ce que ça doit s'accompagner impérativement de la gestion des réseaux sociaux ou en tout cas de l'établissement d'une charte pour celui qui va gérer les réseaux ou bien ce sont deux choses complètement séparées?
Moi, j'ai toujours vu tout ce qui était communication comme étant un ensemble. Si on est coupé les uns des autres, ça ne va pas. Il y a une dissonance qui peut arriver dans le message qu'il faut passer. Donc, au pire, il faut une coordination entre les différents pôles communication. Si on décide que le community management doit être géré par quelqu'un et la rédaction web par quelqu'un d'autre, alors il faut une coordination, ne fût-ce qu'avoir, on va dire, un comité de rédaction toutes les semaines, et avoir un calendrier commun. C'est ce qu'on fait plus ou moins avec un client. On a un calendrier commun parce qu'on synchronise. Par exemple, la parution des articles avec la promotion de l'article
Sur les
sur
réseaux.
les réseaux sociaux. Et puis aussi, quelquefois, il y a une synchronisation entre une activité qui est liée à, par exemple, une visite virtuelle.
Oui.
Eh ben, ça va être lié à la fois parce qu'il y a un plan de rédaction, quoi. Et
Oui,
ça, un
oui, oui.
plan de rédaction, il est en commun avec les réseaux sociaux et la rédaction web pure.
D'accord. Du coup, ça m'avait fait penser à quelque chose, mais je viens de perdre mon idée. C'est pas grave, ça reviendra certainement. J'aimerais bien aussi qu'on évoque un peu ce dont on avait discuté dans la préparation de cette discussion. C'était l'aspect copie. Tu me disais que rédacteur web et copywriter, c'est pas exactement la même chose. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence principale entre les deux, en fait?
Mais copywriter, c'est un vieux métier en fait. C'est un vieux métier de la pub. D'ailleurs, s'il y en a qui ont regardé Mad Men, Peggy Olson, donc au début, elle est la secrétaire de Don Draper, mais le premier job sérieux qu'elle a dans la firme de pub, c'est copywriter. Copywriter, à la base, c'est écrire pour vendre.
D'accord.
C'est ceux qui écrivent les slogans, les textes de vente, dans les brochures, dans les pubs, sur les affiches, etc. À la base, copywriter, c'est ça.
OK.
Maintenant, évidemment, on a incorporé, il y a des éléments de copywriting dans la rédaction web, mais c'est pas la même finalité à la base.
D'accord. Et donc, du coup, bah, il arrive que vous soyez en communication avec des copies des boîtes pour lesquelles vous travaillez, ou bien ça pourrait arriver, ou...
J'imagine que ça pourrait arriver. Pour le moment, ça n'a pas encore été le cas, mais ouais, ça pourrait arriver.
D'accord. Là-dessus, je suis retombé sur le fil de mes idées. Est-ce qu'il y a, au même titre qu'on retrouve des anciens d'IEX, des anciens d'HEC, enfin des anciens n'importe quelle école, des regroupements, des associations de ces nouveaux métiers web comme rédacteur web ou copie web? Est-ce que vous vous retrouvez dans des fédérations ou quoi que ce soit? Ou bien c'est vraiment un peu tellement tellement nouveau que on n'en est pas encore arrivé à structurer ces...
Alors, je t'avoue que je suis tellement dans le nez sur le guidon que je n'y ai jamais pensé d'aller voir s'il y avait une espèce, on va dire, de regroupement, ne fût-ce que de groupe Facebook. Bon, chez les community managers, oui.
Oui, il y en a social media
Il y
belge,
a des
enfin,
groupes,
ouais.
il y a du côté des rédacteurs web, j'imagine que ça doit exister. En Belgique francophone, peut-être, mais j'ai jamais cherché, ce qui est un tort. Là, tu me fais en train.
Mais je t'avoue que j'y ai pas pensé plus tôt non plus. Hein. Enfin, c'est vraiment dans la discussion que ça m'est venu. Mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi. Et du coup, j'irai voir par la suite également parce que ça m'intéresse. Mais du coup, est-ce que vous avez l'habitude quand même de. Enfin, tu n'es pas la dernière visible en ligne en Belgique non plus. On se connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'on fréquente un certain nombre de personnes en ligne. Et donc, est-ce que tu as des échanges parfois avec d'autres rédacteurs web pour des trucs et astuces, sans être réunis dans un groupe quelconque, mais par le simple fait d'être présente en ligne depuis très longtemps maintenant?
Eh bien, non. Mais je pense que c'est mon caractère aussi. J'aime bien faire tout toute seule et sans aide. C'est aussi à la fois un défaut. Et en fait, comme j'ai mes deux collègues, on se repose les unes sur les autres, quoi.
Yes.
Sauf, allez, on va dire, peut-être que si j'avais une question vraiment qui serait insoluble pour moi, je pourrais poser la question aux deux autres freelances avec qui j'ai travaillé pour Bruxelles Formation.
Ouais.
Puisqu'elles sont des pures rédactrices.
OK.
Rédactrice et copie. Et donc.
Yes. Alors, si je reprends un peu le fil, il y avait une question qui me taraudait un peu. Qu'est-ce qui, selon toi, sur l'évolution du web sur ces 15-20 dernières années, a le plus évolué au niveau de la rédaction? Est-ce que la rédaction web a évolué, ou bien est-ce que au vu de ce qu'on sait maintenant, ça aurait déjà été valable il y a 10, 15 ans dans la manière de rédiger. Ou bien le fait est que la technique évolue, les algos évoluent tellement rapidement que peu importe en fait ce qu'on sait aujourd'hui, ça n'aurait pas plus marché il y a 10 ou 15 ans.
Alors, au tout début, on écrivait pour le web comme on écrivait pour un journal. Donc, et puis, les choses ont commencé à évoluer, mais je pense que finalement, la base reste la même. C'est juste qu'il y a des aménagements. Mais globalement, ça reste plus ou moins la même chose. Sauf peut-être, on va dire, la grosse évolution, je pense, c'est que l'image, quand je parle d'image, je ne parle pas spécialement de photos, mais je parle aussi de vidéos ou bien de l'animation qui prend de plus en plus de place. Et évidemment, il y a aussi ce qui a donné un coup d'accélérateur aussi au format d'écriture web, c'est le mobile.
Oui,
Parce
clairement.
que déjà sur un écran, on lit moins, sur le mobile, on lit encore moins.
Et justement, comment est-ce que vous gérez cet aspect-là des choses? Parce que bon, on peut supposer que certains travaillent soit via une app, soit via un site adapté au mobile, mais où est-ce qu'on tranche en fait dans la manière d'écrire? Parce que je ne sais pas si le surfeur qui est sur desktop et qui se retrouverait avec un texte écrit pour mobile serait nécessairement satisfait. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, en fait?
Je pense que il faut avant tout penser, à mon avis, pour qui on écrit. Parce que ceux qui suivent déjà un site depuis longtemps, ils savent pourquoi ils le suivent et donc ça veut dire qu'il y a un style qu'ils aiment ou bien une présentation qu'ils aiment et pourquoi changer à ce moment-là, sauf si on voit qu'on a brusquement une baisse de visite et là on est en train de se dire faut peut-être changer le format. Du coup, là moi aussi j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire après.
Ah, c'est pas bien grave, allez, ça va te revenir. Mais donc, par rapport au mobile, la tendance selon toi pour le moment, on est à quel usage? 70-30, 70 mobile, 30 desktop, ou bien on est toujours
40-60.
40-60 à
40
l'avantage?
pour le donc 60 pour le desktop, 40 pour le mobile.
40 pour le mobile, ouais, ok.
Tout de même.
Oui, ça fait déjà beaucoup. Et du coup, le réflexe que vous adoptez quand vous rédigez pour le mobile, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un outil déjà
Je dirais pour l'écriture, pas que je sache, il faut juste songer à des trucs, par exemple, de ne pas faire des paragraphes trop longs, mettre du gras là où il faut, en même temps où ça peut aider à recentrer l'attention du lecteur. En même temps, ça joue sur le SEO aussi, donc il faut y penser. Casser le rythme avec des images aussi, essentiellement, quoi.
Ok. Si tu avais, toi, en tant que rédactrice web, un souhait ou un outil que tu voudrais voir arriver qui te faciliterait la vie, pardon, ce serait quoi?
Un outil qui permettrait de faire des articles SEO parfaits, qui soient pas trop sûrs, mais comme par magie. Ça, ce serait génial. Je sais qu'il y a Par exemple, SEMrush a un outil d'aide à la rédaction. Je pense que CocoLise aussi en a un. Mais c'est pas encore un. J'ai pas encore trouvé le truc qui permettrait. Et puis aussi qui permet peut-être vraiment de trouver le bon rythme d'un texte aussi pour le lecteur.
Ouais, clairement, c'est important parce que la lecture, ma foi, je suis bien placé pour le dire. J'ai de plus en plus de mal avec la lecture. En fait, j'ai du mal à focaliser, à rester concentré. Donc, si on m'accroche pas, on perd très vite. Donc,
Et idem, hein, et pourtant, j'écris.
ouais.
Donc, c'est une caractéristique pour nous tous, je pense.
Et oui, je pense. Et Dieu sait pourtant que la lecture est importante aussi pour les assimilations de concepts, etc. Donc, je reprends un peu mes notes pour voir s'il nous reste quelque chose à évoquer. Est-ce que éventuellement tu aurais une formation à conseiller? Tu aurais entendu, tu parlais de Bruxelles Formation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des endroits où, selon toi, on peut se renseigner si on veut devenir rédacteur web? Ou bien est-ce que c'est vraiment le fait d'être autodidacte, de beaucoup s'informer en ligne qui permet de franchir le pas et de pouvoir.
À mon avis, il y a les formations, il y a des formations AliEx, mais qui sont un peu chères, on va dire, mais qui sont très bonnes.
Oui, c'est
Je n'en
toujours la
doute pas.
difficulté, faire la balance entre le rapport coût-bénéfice, évidemment sur la durée aussi, puis le moment où on envisage de suivre cette formation. Très bien.
Chez Bruxelles Formation, malheureusement, pour la rédaction web, il n'y en a pas. Il y a pour le SEO, il y a des formations pour aussi être webmaster ou web développeur, mais pas pour la
D'accord.
rédaction web.
Yes. Eh bien, tout ça donnera certainement l'occasion d'approfondir, de fureter sur le web à la recherche de bons liens. Mélissa, on arrive au terme de cette heure de discussion. Merci d'avoir accepté de prendre du temps pour discuter avec nous de la rédaction web. Est-ce que tu as un commentaire à ajouter avant de clôturer?
Juste te dire merci, c'était très chouette et ça fait toujours plaisir de te revoir aussi parce que ça fait un bout de temps.
Ça fait un bout de temps, oui, en effet, depuis un
Ouais.
café numérique à Namur, en fait. Donc, on espère qu'on va pouvoir sortir tout doucement de ce qui nous empêche de bouger pour le moment et de se
Ouais.
revoir et de franchir l'étape de la rencontre live.
On
Merci, merci, Mélissa.
espère.
Oui.
Ciao, Sam, merci à toi.